Il va falloir supporter leur agression, supporter leurs mauvaises vibrations, et que même parfois il faudra se battre. C'est la vie qui est mal organisée parce que, en plus, autour de la planète, il y a des endroits noirs d'énergie à cause des guerres qui y sont perpétrées. Et ces nuages noirs circulent autour de la Terre. Alors comment est-ce que moi, petit homme, dans ma petite maison, dans mon petit appartement, comment est-ce que je pourrais changer tout ça et arriver à méditer? Et beaucoup de disciples se lèvent, oublient leurs livres d'études et se disent finalement c'est la faute au bon Dieu, il avait qu'à inventer un autre système, une autre société, une autre planète où cela marcherait différemment. Puis c'est la faute au maître parce qu'ils n'ont qu'à venir et être un peu plus présents et prendre un peu les choses en main. Comme ça, on pourrait méditer. Comme ça, il n'y aurait plus d'argent nulle part. Comme ça, il n'y aurait plus de violence nulle part, plus de maladie nulle part. Quand nous entendons ce genre de réflexion, ce genre de paroles montées de l'esprit des disciples, nous comprenons profondément et sincèrement leurs revendications. Avec compassion, je vous assure, nous comprenons. Du plus profond de notre cœur, je vous assure, nous comprenons, vraiment. Mais nous ne pouvons pas dire pour autant que vous avez raison de penser de la sorte. Tout simplement parce que penser de la sorte, c'est ne pas connaître le pouvoir initiatique que représente la vie. C'est ne pas connaître non plus la grande liberté qu'il y a dans l'acte de vivre et de créer une planète et de la laisser vivre sa vie. Lorsque vous commencez à connaître toutes ces lois, l'initiation, les divers feux, l'évolution, la liberté, automatiquement vous arrivez mieux à ajuster votre jugement. Et comme par hasard, quand ses disciples arrivent à ces compréhensions, nous n'entendons plus aucune réclamation ni aucune revendication. Car le disciple sait qu'il n'appartient qu'à lui de méditer au milieu des bombes. Vous allez me dire, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse méditer au milieu de bombes qui sont en train de tomber de partout. D'abord parce que l'individu va avoir peur pour lui-même, peur de mourir. Ensuite parce qu'il y a un bruit catastrophique, épouvantable. Ensuite parce qu'il y a même le sol qui se soulève et des projectiles dans tous les sens. Et pourtant, là je prends un cas extrême, mais c'est un cas vrai. Et pourtant, même sur un champ en plein bombardement, un disciple peut véritablement et authentiquement méditer. Comment est-ce qu'il va faire? Il ne va pas ignorer que la guerre existe. Il ne va pas se dire, mais non, là, les bombes que je vois tomber, c'est des pâquerettes ou des œufs de Pâques. Ça ne saute pas. Je me fais des illusions en croyant que ça va exploser. Et quand j'entendrai le bruit de l'explosion, Non, il ne faut pas que j'imagine que ce soit le bruit des bombes. C'est une musique différente, mais c'est une musique quand même. Non, pour méditer au milieu des bombes, le disciple ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, devenir quelqu'un de positif à l'extrême de l'utopie, ou de la fantaisie, ou du rêve, ou de l'illusion. Au contraire, il va se dire, Seigneur, il y a des bombes partout qui tombent. La mort est à chaque centimètre. Il y a un bruit épouvantable. Tout le monde est en train de mourir et moi, je vais sans doute mourir aussi. Mais au milieu de ce désastre, c'est encore à toi que j'envoie toute mon âme. C'est encore en toi que je crois le plus. C'est encore ta voix que j'entends le plus, malgré les bombes. Alors même si tout s'écroule autour de moi, j'arrête mes peurs, j'arrête mes craintes. Et je te prie, Seigneur, je te loue, Seigneur, et je te contemple. La force du disciple, c'est celle-là. Ce n'est donc pas se bander les yeux ou imaginer qu'il existe autre chose que ce qui existe, comme certains de ses disciples qui disent « Je veux croire que le monde est beau, je veux croire dans le nouveau monde, alors je vais essayer de créer un nouveau monde ici et maintenant, mais zut, ça ne marche pas !» Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce qu'il y a encore l'argent et que, décidément, cette notion est étranglante. Ça ne marche pas, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a encore trop de matérialistes sur la terre et ils n'en ont rien à faire de ce que je viens de te parler de Dieu, ou des auras, ou des guérisseurs, ou des maîtres, ou de la hiérarchie. Je veux faire le nouveau monde et qu'est-ce que je contemple ? De quoi je m'aperçois ? Eh bien, je m'aperçois que le monde n'en a rien à faire de mon nouveau monde. Et alors les disciples, tout penauds, tout désolés, tout désappointés, reprennent l'étable de leur nouveau monde et s'en vont dans une montagne, vivre très loin, en élevant des chèvres ou des moutons. Et ils se disent, là au moins, puisque je ne suis qu'avec moi-même, je vais pouvoir vivre ce nouveau monde, puisque les autres n'en veulent pas. Ce genre de disciples appartiennent à la catégorie que j'ai citée tout à l'heure, de ceux qui superposent un rêve sur un état de désastre pour être quand même dans une attitude positive ou pour croire quand même à quelque chose. Moi, je vous le dis, il ne faut croire en rien. Ni croire dans le nouveau monde, ni croire dans le désastre qui est en train de se produire. Simplement, croyez en Dieu ou dans la lumière ou en vous-même. Ou dans l'amour, ou dans la force du bien. Celui qui veut créer quelque chose en projetant la chose ne comprend rien aux énergies qu'il doit utiliser. Parce que le monde va faire résistance. Le monde se moque complètement de ce que vous avez à apporter. Si vous êtes guérisseur, vous avez bien pu constater que le monde se moque des guérisseurs. Que les médecins qui sont pourtant à l'intérieur même de la profession qui a la volonté et le devoir de soigner les hommes, eh bien, les médecins se moquent complètement des guérisseurs. Ils n'y croient pas, ils n'en veulent pas. Donc, n'essayez pas de croire dans un nouveau monde. N'essayez pas d'apporter ici et maintenant, tout de suite, ce nouveau monde, en étant vous-même plein de phrases toutes faites, plein d'attitudes toutes stéréotypées d'après le positif du nouveau monde. Soyez au contraire ce disciple au milieu du champ de bataille, conscient, habité par votre vision, c'est certain, il faut cette vision. Mais que cette vision ne soit pas l'objet de votre travail. Que cette vision soit pour vous l'aliment de l'espoir et qu'elle vous stimule, c'est certain. Mais que toutes vos énergies soient avant tout investies sur le champ de bataille. À aller sauver les autres, à aller aider les autres, à aller parler aux autres et à ignorer les bombes qui tombent. Il ne faut vivre aucun rêve. Même pas le rêve divin. Même si vous rêvez de Dieu, à partir du moment où vous rêvez, vous êtes déjà à des années-lumière de Dieu, trop loin de Dieu, à l'envers de l'endroit où il se trouve. L'endroit où Dieu se trouve n'est pas l'endroit d'un rêve. D'aucun rêve, d'aucune illusion, d'aucune projection. C'est l'endroit d'une pure et grande réalité. Même si c'est une réalité qui fait parfois peur, parce que c'est aussi la réalité du champ de bataille. Pour être actif sur la planète, pour être actif de façon spirituelle, ayez toujours ce soin d'être réel. Nous récapitulons. En début de discours, j'ai parlé de la valeur et de l'importance qu'il y avait à intégrer les choses. ensuite de la valeur et de l'importance qu'il y avait à connaître votre constitution occulte, pour voir dans la vie même profane tout le développement de la voie initiatique. Donc, tous les moments initiatiques que la vie même profane vous apporte pour développer vos énergies et les épanouir. Et maintenant, je vous dis, tout ceci est très bien, mais soyez en plus très réel. Si vous n'avez pas un grand sens du réel, vous ne pouvez aller nulle part. Vous allez parler de Dieu, vous allez croire en Dieu, vous allez faire peut-être même les choses de Dieu, mais vous n'aboutirez jamais à Dieu. Et les gens que vous emmènerez avec vous ne rencontreront pas Dieu non plus. Donc, ayez le soin d'être réel. Pour être réel, ce n'est pas plus difficile que pour être toujours aligné avec l'âme, car c'est la même chose. Soyez bien centré en vous-même. Et c'est sur cet exercice que je vais vous quitter. Comment bien se centrer? D'abord, il faut que votre corps soit dans une position appropriée. Comme toutes les énergies circulent le long de la colonne vertébrale, il faut donc que votre colonne soit elle aussi bien droite, bien ouverte, bien dépliée. Vous ne pouvez pas vous aligner, même si vous savez comment respirer, vous ne pouvez pas vous aligner si vous êtes tout tordu dans un fauteuil ou dans votre posture de méditation. Un alignement se passe donc toujours en alignant aussi le corps, en alignant la colonne, parce que la colonne est le tunnel de toutes les énergies. C'est pourquoi tout au long de votre journée, pour que vos énergies circulent bien aussi, il vous faut avoir une position assez corrigée, assez tenue, qui permette à la colonne vertébrale de se trouver assez droite, tout en étant souple quand même. Il ne faut pas vous raidir. Cela ne sert à rien, cela est très mauvais. Il faut vous tenir simplement assez droit et souple. Lorsque vous avez comme cela positionné votre corps, cela va influencer vos attitudes mentales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Automatiquement, en positionnant votre corps et en émettant cette volonté de positionner le corps, toute l'activité mentale va aussi déterminer, parce qu'elle reçoit l'information, elle va aussi déterminer qu'elle doit opérer un alignement dans son activité. Et c'est à ce moment-là où vous atteignez un certain état de relaxation, un certain état de calme, et vous allez pouvoir prendre les choses en main. Que ce soit en gardant les jambes séparées, posées simplement par terre, ou que ce soit en croisant les pieds pour imiter quelque peu la station en tailleur, ce qu'il vous faut faire à partir de ce moment-là, c'est penser que vous respirez avec le ventre, comme une grosse vague qui viendrait de l'océan et qui rentre en vous. Quand vous respirez de cette façon avec le ventre, cela ne veut pas dire que vous stimulez ou que vous développez le plexus solaire, car là n'est pas du tout mon but. Simplement, il vous faut respirer par le ventre, parce que le ventre est l'endroit où les émotions s'accumulent, puisque c'est là que réside le centre des émotions. Puisque c'est là que réside le centre, c'est là que les émotions vont laisser le plus leurs traces ou leur état de crispation. Automatiquement, donc, en respirant par le ventre, vous allez permettre à l'énergie, plus à l'ordre mental que vous émettez, vous allez permettre à ces deux énergies d'entrer dans cette zone des émotions et d'y créer un certain calme. Alors, comme la vague qui vient d'un océan, vous absorbez par le ventre, vous faites monter à l'intérieur de votre corps cette vague et vous expirez par la bouche tous les désagréments. Comme si vous recrachiez dans un très long souffle tout le déséquilibre ou la nervosité ou l'impatience ou la fatigue ou la tension de la journée. Vous le faites aussi longtemps que vous sentez qu'il y a encore une résistance en vous. Puis lorsque vous sentez un certain état de calme, Si vous voulez passer à une relaxation profonde, vous pouvez effectuer toutes les techniques qui existent et que l'on connaît